Le choix, c'est de s'aventurer maintenant dans la vie, car c'est de ce moment-là que commence sa vagance du labeur le plus humble.
Ce n'est pas un régime de spectateurs. C'est une organisation politique de citoyens qui se tiennent informés, qui se parlent et qui agissent ensemble. Notre salut collectif passe par l'action collective. Je le répète, on devrait être beaucoup plus révoltés et indignés que nous ne le sommes. Je le répète, on devrait être beaucoup plus révoltés et indignés que nous ne le sommes.
Alors, bienvenue à Toute Simplicité. C'était Richard Séguin, Guerre et Tempête, qui nous parle de désobéissance civile, de conscience collective, conscience sociale. Et ben c'est un des aspects qu'on connaît bien de Henri-David Thoreau, qui a fait connaître la désobéissance civile par son long livre sur la désobéissance civile. Mais il y a beaucoup d'autres aussi, d'autres aspects à Thoreau. Puis aujourd'hui, ben c'est ce qu'on va aborder. Je voulais faire une émission sur Thoreau parce que c'est un peu notre guide spirituel à l'émission En toute simplicité. Je vous lis à chaque semaine un extrait de Walden en commençant l'émission. Alors, voilà, ça, on va parler de Thoreau aujourd'hui. Mais avant ça, j'ai des lectures que j'ai faites cette semaine, des choses à vous dire. Alors, on va commencer par ma petite revue de presse. J'ai pas trouvé beaucoup de choses cette semaine, mais quelques articles dans Le Devoir que j'ai retenus. Dans Le Devoir de mercredi, triste nouvelle, une baleine connue depuis 35 ans retrouvée morte en Gaspésie. Les rorquals, ce sont des animaux fabuleux, immense. C'est tellement triste de voir ça, la photo du rorqual échoué sur une plage en Gaspésie. Une femelle rorqual connue depuis plus de 35 ans par les scientifiques qui étudient les baleines dans le Saint-Laurent a été retrouvée morte au cours des derniers jours en Gaspésie. La carcasse imposante de l'animal, qui porte des marques d'empêtrement dans un engin de pêche, fera l'objet d'une analyse pour tenter de déterminer les causes du décès. Cette baleine de plus de 19 mètres, pour un poids de plusieurs dizaines de tonnes, a été retrouvée sur le village de Grande-Vallée. Sa mort semblait relativement récente puisque la carcasse de l'animal était relativement fraîche, précise le directeur scientifique du groupe de recherche et d'éducation sur les mammifères marins, Robert Michaud. Le rorqual commun est le deuxième plus gros animal vivant sur Terre. Cette femelle, inscrite au catalogue des animaux identifiés par les experts avec le code BP-919, était connue depuis 1990. Elle a été observée à plusieurs reprises au fil des ans dans l'estuaire et dans le golfe Saint-Laurent, y compris cette année. Il est trop tôt pour déterminer ce qui aurait causé la mort de cette baleine, mais une nécropsie doit avoir lieu cette semaine. Autre texte aussi, toujours dans Le Devoir de mercredi, les gardiens des terres agricoles du Québec, le gardien des terres agricoles du Québec voit la conservation écologique d'un nouvel œil, une nouvelle orientation adoptée par la Commission de protection du territoire agricole devrait faciliter la protection des milieux humides. C'est intéressant, c'est que la Commission des terres agricoles élargit un peu son spectre et l'article nous parle d'une tourbière qui est considérée comme sous la juridiction des terres agricoles, malgré que ce n'est pas une terre agricole, c'est une tourbière. En se prononçant jeudi dernier sur l'épineux dossier d'une tourbière boisée à Granby, la Commission du territoire agricole du Québec a adopté une orientation importante qui devrait faciliter la protection des milieux humides en zone agricole. Le dossier en question, une saga judiciaire commencée en 2019, concerne une terre de 13,5 hectares en zone agricole qui héberge marais, marécages et tourbières. Son propriétaire veut la céder à la Fondation CETI, S-E-T-H-Y, un organisme de conservation afin qu'elle soit protégée à perpétuité les commissaires dont la mission consiste à assurer la pérennité de la base territoriale pour la pratique de l'agriculture ont jugé que le projet présente des bénéfices pour le territoire agricole et qu'en conséquence, la transaction foncière devrait être autorisée. Pour nous, c'est un soulagement, lance Martine Ruel, la directrice générale de la Fondation. En 6 ans, l'organisme a déboursé près de 50 000 $ en frais juridiques dans ce dossier. C'est que l'UPA n'était pas d'accord. Ça, c'est un peu étrange, mais l'UPA n'était pas d'accord qu'on fasse ça, considérait que ça devrait être réservé à l'agriculture. Je ne comprends pas trop pourquoi. Mais en tout cas, ceci étant dit, la tourbière sera conservée et même les gens qui vont gérer cette tourbière-là, ils vont probablement faire un centre d'interprétation, vont aussi faire une forme d'agriculture parce qu'il y a moyen de cultiver, mais pas de la même façon qu'on imagine l'agriculture, mais on parle de différentes utilisations qu'on va pouvoir faire dans la tourbière. Donc, j'aime ça parce que ça ouvre les perspectives. On voit l'agriculture, l'idée de l'agriculture qui s'élargit. Puis, on va en parler aux émissions à venir. Entre autres, j'aimerais qu'on parle un peu de permaculture. Ça aussi, ça commence à prendre de l'ampleur. Puis, on est en train de revoir, entre autres, les méthodes de jardinage selon les principes de la permaculture. C'est révolutionnaire, dans le fond. Et il y a aussi l'agroforesterie qu'on j'aimerais aborder. Probablement qu'on va avoir une émission là-dessus, les arbres dans nos jardins. Alors, c'est un dossier à suivre. Alors ça, c'était dans le devoir de mercredi. Autre article sur les baleines. Dans le devoir de jeudi, le secret de longévité de la baleine boréale. Comment ce mastodonte résiste-t-il au cancer et peut vivre pendant plus de 200 ans? La baleine boréale est l'un des mammifères les plus gros qui vit le plus longtemps. Des chercheurs ont tenté de percer le secret de sa longévité exceptionnelle. Leur découverte indique que ces mammifères marins sont dotés d'un système d'une formidable efficacité pour réparer les régions de leur génome ayant subi des mutations, lesquelles sont souvent à l'origine de cancers. La baleine boréale, qui habite dans les eaux de l'Arctique et de la région subarctique, peut vivre plus de 200 ans et peser plus de 80 000 kilos. En principe, sa longue durée de vie et son imposante masse corporelle devraient la prédisposer à accumuler un grand nombre de mutations au cours de sa vie, étant donné que chaque cellule qui la compose est susceptible de subir des mutations au cours du temps et de se faire devenir cancéreuse. Mais étrangement, le nombre considérablement élevé de cellules et conséquemment de divisions cellulaires durant lesquelles surviennent le plus souvent les mutations chez les plus gros organismes ne conduit pas nécessairement à une incidence plus élevée de cancer et une durée de vie plus courte. Cette absence de corrélation entre la taille de l'animal et le risque de cancer a été dénommée paradoxe de Peto. Ce paradoxe s'expliquerait par la présence chez les très gros animaux, comme la baleine, de mécanismes naturels capables d'éliminer beaucoup plus efficacement que chez les humains notamment, les cellules en voie de devenir cancéreuses. Ce sont ces mécanismes que l'équipe de chercheurs de l'Albert Einstein College of Medicine à New York a voulu identifier chez ce mastodonte de la mer qui visiblement arrive à échapper à la mort par cancer pendant plus de 200 ans. Alors, c'est vraiment fascinant. Les baleines boréales qui vivent 200 ans et qui évitent le cancer. J'ai aussi feuilleté le courrier international publie en hors-série qui s'appelle l'Atlas des ressources. C'est en kiosque depuis quelques semaines. J'ai commencé à le feuilleter. C'est fort intéressant, très bien fait. On nous parle entre autres là, de la, de notre l'empreinte écologique. On parle du moment où on dépasse la capacité de la Terre à fournir des ressources. Alors, on dit que notre empreinte écologique dans certains pays dépasse la capacité de la Terre de plusieurs fois. Certains pays sont beaucoup plus... arrivent, on parle de la date de dépassement, là. Pour la planète au complet, je pense que c'est en juillet. À partir de juillet, l'utilisation des ressources dépasse la capacité de la Terre de renouveler. C'est 24 juillet, jour du dépassement de la Terre. Mais certains pays sont encore plus des gros consommateurs de ressources. On parle d'un des plus gros consommateurs, c'est le Qatar. Si le monde entier vivait comme le Qatar, le jour du dépassement aurait lieu le 6 février. Autrement dit, il faudrait 10 terres pour la consommation d'une année. On a le Koweït aussi, 7 mars. Les États-Unis, 13 mars. Russie, 16 avril. Un peu mou, mais on fait remarquer que certains pays arrivent à ne pas dépasser la capacité de la Terre. Il y a, entre autres, l'Uruguay qui est presque à égalité. Lui, c'est la date de dépassement de l'Uruguay, c'est le 17 décembre. Alors, on devrait s'inspirer de pays comme l'Uruguay sur notre façon de fonctionner. En tout cas, il y a beaucoup d'articles intéressants. Il y en a un aussi sur l'intelligence artificielle. Comment l'intelligence artificielle dévore la Terre. Gourmande en énergie, en eau et en minerais, l'intelligence artificielle dope la course aux ressources que se livrent les grandes puissances, au détriment de la lutte au dérèglement climatique. Un véritable condensé de notre folle exploitation de la planète. Une puissance qui change tout sur son passage, le moindre recoin de la planète, le moindre aspect de la vie humaine. L'intelligence artificielle a une composante physique énorme, déclare Kate Crawford. Ses infrastructures engloutissent des quantités incroyables de ressources. Eau, énergie, minerais, données, main-d'œuvre. Pourtant, l'IA, ça fait virtuel un malentendu dangereux, précise Kate Crawford. Elle est bien placée pour le savoir. Cette professeure australo-américaine est experte en intelligence artificielle et compte parmi les 100 spécialistes les plus importants du monde. Mais surtout, elle a compris il y a quelques années le prix de l'IA. Alors, c'est un article sur l'accaparement énorme des ressources que l'IA représente. Et on semble actuellement, là, on ne dirait pas qu'on se pose de questions à ce sujet-là. On y va, là, tête baissée, voilà. Alors, c'est une réflexion là, qui mérite d'être faite. Alors, pour ceux que ça intéresse, c'est l'Atlas des ressources du Courrier international. Il y a plusieurs chapitres. On aborde les minerais, entre autres, par l'intelligence artificielle. Plusieurs articles sur l'exploitation des minerais. L'eau, alors ça aussi, ressources qui est en perdition. Dans certains pays, on est face à des grandes sécheresses. La terre, là aussi, les terres arables qui sont en perte. Puis le feu, bien, qui est l'utilisation des énergies fossiles, entre autres. Alors, c'est le Courrier international Atlas des ressources. dernière petite lecture... dans le Philosophie Magazine, qui est en kiosque actuellement, c'est consacré à l'IA. L'IA et moi, l'intelligence artificielle. Alors, encore une fois, c'est vraiment le sujet de l'heure, l'intelligence artificielle. Et je vous parle d'un article, l'IA, comment l'apprivoiser. Puis on utilise des philosophes pour avoir une réflexion sur l'IA, entre autres Hegel. Hegel se préparait à la lutte pour la maîtrise. Dans le monde du travail, la relation avec l'IA pourrait prendre un tour plus conflictuel encore, qu'il s'agisse de l'utiliser dans un laboratoire pour calculer les probabilités et développer un cancer ou dans un centre de tri de la grande distribution pour optimiser les tâches des magasiniers, l'IA se présentera comme un outil personnel susceptible de répondre grâce à sa puissance de calcul et à la masse d'informations qu'elle peut synthétiser à la plupart des requêtes que nous lui ferons. Or, cette disponibilité servile risque de réveiller une relation aussi ancienne et archaïque que celle du travail lui-même, la relation d'esclavage. Mais qui sera l'esclave de l'autre? Dans le monde du travail, tout se passe comme si Léa réactivait cette dialectique avec une question lancinante. À mesure que les machines absorbent les produits de l'intelligence humaine de répondre aux requêtes que nous leur adressons, ne vont-elles pas à un moment donné se retourner contre leur maître du moment pour affirmer leur indépendance? Gonflées par la conscience grandissante de leur propre accomplissement, les IA de demain ne réclameront-elles pas de ceux qu'elles servent qu'ils reconnaissent leur capacité de penser, de sentir et de décider des questions qui les concernent. Et quand elles se révolteront, faudra-t-il les débrancher avant qu'elles ne nous débranchent? La question qui semblait appartenir hier encore à la science-fiction entre dans le registre du pensable. Un autre penseur aussi qu'on aborde, c'est Socrate. Avec Socrate, préserver le deux en un de la pensée dans la sphère du savoir et de l'éducation. Enfin, c'est un troisième scénario qui se dessine. Pour interroger et converser avec l'IA, tous les spécialistes en conviennent, il va falloir développer de nouvelles compétences ou la capacité à poser les bonnes questions, à nourrir l'outil avec les contenus pertinents sera décisive. Ce qu'on appelle prompter, délivrer une liste d'instructions afin d'obtenir une réponse pertinente. Plus le prompt sera robuste, plus la productivité de l'outil sera élevée et la collaboration avec la machine féconde. Comme le souligne le philosophe Andrea Colamedici, qui emprunte là le vocabulaire socratique, c'est une nouvelle maïeutique réciproque qui se développera. L'IA, en me soumettant à des énoncés, fera surgir des choses en moi et je fais surgir des choses dans l'IA. On s'accouche mutuellement. Sauf que la grande différence entre une conversation avec ChatGPT et un dialogue avec Socrate, c'est que dans celui-ci, je me suis mis en demeure de répondre de ce que je dis tout au long de l'échange. Mieux vaudrait, affirmait Socrate, me servir d'une lyre dissonante mal accordée, diriger un cœur mal réglé ou me trouver en désaccord ou en opposition avec tout le monde que d'être avec moi-même et tout seul à me contredire. Ce que Hannah Arendt appelait dans les pas de Socrate le deux en un, le fait que chacun des interlocuteurs est tenu par une cohérence intérieure qui l'engage vis-à-vis de lui-même et des autres. N'est-ce pas ce dont ChatGPT reste heureusement dépourvu? Il n'est tenu à rien d'autre qu'aux requêtes de celui qui l'interroge. Il n'est engagé à rien, mais prêt à tout. Si précise, étayée et justifiée que soient ses réponses, elle s'enchaîne sans souci de cohérence interne, de responsabilité. Tandis qu'en parlant, nous cherchons, nous, à nous entendre jusqu'à nouvel ordre, c'est la charge spécifique de la parole et du savoir humain et sa respiration intérieure. Alors, c'est des réflexions là, qu'on va avoir à l'avenir, parce que l'intelligence artificielle arrive à grands pas. Alors voilà. Ah oui, petite annonce aussi, avant de prendre une pause musicale. Il va y avoir les Amis de la Terre qui organisent des projections cinématographiques. Alors, il y aura Cinémataire le 6 novembre. C'est, je pense, jeudi prochain, si je ne me trompe pas, 18h30, à la Bibliothèque Gabriel Leroy, où on va projeter le film Animal, qui est dans la même série que le film Demain. Alors, pour ceux qui s'intéressent, c'est gratuit. le 6 novembre, 18h30, Bibliothèque Gabriel Leroy. Alors voilà, on va prendre une pause musicale, puis on va parler de taureaux. Alors, c'était les Gymnopédies. C'est un couple de pianistes, Jean-Noël Dubois, Lunmia Guilbeault, que j'ai vu en concert là, cet été à la petite cathédrale protestante là, sur, dans le Vieux-Québec. J'oublie le nom de la rue. Alors voilà, Gymnopédies, Éric Satie. Comme je disais tantôt, on parlait de taureau, la pièce sur la guerre que je vous ai fait jouer, qui parle de désobéissance civile, d'aspect très politique. Alors, Taureau était beaucoup connu, beaucoup était connu pour son engagement politique. Mais Taureau a beaucoup de facettes. Il est spécial pour ça. C'est un philosophe, naturaliste, politiquement engagé. En tout cas, il y a plusieurs chapeaux, on pourrait dire. Alors, aujourd'hui, je vais aborder deux de ces chapeaux-là. Le marcheur. Taureau est un grand marcheur. Aussi, c'est son côté aussi naturaliste qui explore la nature. Puis aussi, un autre livre que je vais aborder avec vous, Taureau, Yogi des Bois, que j'ai lu des extraits de ce livre-là l'an dernier à l'émission. C'est l'aspect, on pourrait dire, mystique. L'auteur, Mme Poggi, a fait beaucoup de liens entre la philosophie orientale et Taureau. Puis Taureau avait été dans les premiers là, en Amérique du Nord à lire les grands textes sacrés de l'Inde. Alors, on va aborder ça aussi après la pause musicale, là, après cette partie que je vous présente sur la marche. Alors, c'est un essai que Taureau a publié en 1851. Alors, on dit en avril 1851, Taureau donne au Lycéum de Concorde une conférence qui lui importe et qu'il répétera à de nombreuses reprises les années suivantes. Les ébauches de réflexion en sont apparues dans le journal des mois précédents et dans la version déjà rédigée de Walden. Alors, comment Taureau procédait pour écrire ses livres ou ses essais? C'est que ça commençait dans le journal. Le Taureau a un immense journal. Ça, c'est peut-être la partie la moins connue des écrits de Taureau. C'est son journal. Et c'est immense. Alors, il y a des extraits de journaux qui ont été publiés. Mais le journal, en tant que tel, il est publié, mais c'est plusieurs volumes. Alors, il est moins connu, beaucoup moins connu. Puis c'est probablement la partie la plus intéressante des œuvres de Taureau. Alors, tout ça pour dire que les ébauches de réflexion. Alors, il commençait par l'écrire dans le journal. Ensuite, il prenait des extraits de son journal pour faire des conférences. Et après ça, c'était un peu plus élaboré dans des écrits plus finis, comme Walden, duquel je vous lis des extraits là, à chaque semaine. Alors, son essai, le titre « Walking or the Wild » semble étrangement considéré comme marché, serait équivalent à la notion de sauvage. Le marcheur serait ainsi compétent pour parler de son expérience de la nature sauvage qui constitue un des éléments de l'identité américaine. En fait, Taureau a hésité entre les deux termes au point de les dissocier dans des conférences séparées puis finalement de les regrouper sans pour autant les fondre. Le manuscrit préparé avant sa mort rassemble les deux parties dans un essai composite « Marché » qui paraîtra dans la revue « The Atlantic Monthly » en 1862, un peu après sa mort. Au milieu du 19e siècle, dans une Amérique où régnait l'éthique protestante selon laquelle le travail serait le but de la vie, Taureau, l'ancien étudiant de Harvard, un temps instituteur puis sans emploi régulier, allait se promener dans la campagne et les bois, alentour, même le dimanche, il partait écouter le chant des grenouilles, voir si telle fleur était éclose au printemps, contempler la couleur des feuilles d'automne ou observer la qualité de la glace du lac Walden. Il était bien conscient que dans le petit village de Concorde où il résidait chez ses parents, son attitude de flâneur excentrique était presque comme une provocation. Il n'en avait cure parce que la marche dans la nature était essentielle à sa liberté. Elle formait le cœur d'un art de vivre exigeant plusieurs heures de promenade chaque jour. Elle s'insérait dans son idéal de culture de soi. Taureau adopte ainsi ouvertement la figure du marcheur oisif et revendique le droit de s'adonner à cette activité gratuite, apparemment sans intérêt pour la collectivité. Il soutient la thèse selon laquelle marcher dans la nature est essentiel pour régénérer l'humanité, puisque cette activité permet de renouer avec les propriétés constitutives de chaque être que l'éducation a réprimé. Alors, l'essai « Marcher » est considéré par plusieurs comme étant le meilleur ou l'écrit le plus intéressant de Taureau. Je vais vous en lire des extraits. Là, je disais l'introduction du livre. Pour ceux que ça intéresse, il a été publié en français dans deux éditions, si je ne me trompe pas. Mais celle que je vous lis, c'est l'édition Le mot et le reste. C'est la préface par de Michel Granger et la traduction de Nicole Mallet. Alors, Marché, Henri-David Thoreau. Alors, je vous lis un extrait de Marché de Henri-David Thoreau. Je voudrais me faire l'avocat de la nature, de la liberté absolue et de la vie sauvage qu'on y trouve, par contraste avec la liberté et la culture simplement policée. Je souhaite considérer l'homme comme un habitant ou une partie intégrante de la nature, plutôt que comme un membre de la société. Je désire faire une déclaration extrême, fût-elle exagérée, car il y a suffisamment de champions de la civilisation. Le pasteur, le conseil scolaire et chacun d'entre vous s'en charge fort bien. Au cours de ma vie, je n'ai rencontré qu'une ou deux personnes qui comprenaient l'art de la marche, c'est-à-dire l'art de se promener, qui avaient en quelque sorte le génie de la balade, de ce qu'on désigne du terme de sauntering. Sauntering, selon Thoreau, ça vient de Sainte-Terre. Sainte-Terre, c'est comme si la marche, le sauntering, c'était un pèlerinage sacré. Maud, alors on dit, c'est-à-dire l'art de se promener, qui avait en quelque sorte le génie de la balade, qu'on désigne de ce qu'on désigne du terme « sauntering », mot dont l'étymologie est fort jolie. Au Moyen-Âge, il y avait des gens sans travail qui erraient à travers la campagne en demandant la charité sous le prétexte qu'ils se rendaient à la Sainte Terre, si bien qu'à la vue de l'un d'eux, les enfants s'exclamaient « Tiens, voilà un saint terré, un saunter, un pèlerin en route pour la Terre Sainte. Ceux qui ne se rendent jamais à pied en Terre Sainte, comme ils le prétendent, ne sont en vérité que des oisifs, des vagabonds. Mais ceux qui s'y rendent sont des saunterers, des marcheurs, dans le bon sens du terme, celui où je l'entends. D'autres, cependant, pensent que le mot est dérivé de l'expression « sans terre », sans pays ni foyer, ce qui signifie donc, dans le bon sens, qu'en n'ayant pas de maison à soi, on se sent chez soi partout. C'est bien là le secret de la promenade réussie. Celui qui reste tranquillement assis chez lui tout le temps est sans doute le plus grand des errants, mais le promeneur, le marcheur au bon sens du terme, n'est pas plus dans l'errance qu'une rivière avec ses méandres, qui cherche constamment et assidûment le chemin le plus court menant à la mer. Quant à moi, je préfère la première explication qui est en vérité l'étymologie la plus probable, car chaque promeneur est une sorte de croisade, chaque promenade est une sorte de croisade, prêchée par quelque Pierre l'ermite caché en nous, pour nous exhorter à partir à la conquête de la Terre Sainte, tombée aux mains des infidèles. Il est vrai que nous ne sommes que des croisés timorés de nos jours, même les marcheurs qui ne se lancent dans aucune entreprise de longue haleine exigeant de la persévérance. Nos expéditions se réduisent à des excursions qui nous ramènent le soir au coin du feu d'où nous étions partis le matin. La moitié de la promenade consiste à revenir sur nos pas. Il faudrait peut-être se lancer dans la plus courte des balades emplies de l'esprit d'une immortelle aventure, sans espoir de retour, préparées à nous renvoyer dans nos royaumes désolés que nos cœurs embaumés en guise de reliques. Si vous êtes prêts à abandonner père, mère, frères et sœurs, femmes, enfants et amis, prêts à ne jamais les revoir, si vous avez payé vos dettes, fait votre testament et réglé toutes vos affaires, vous êtes un homme libre, alors vous êtes prêts pour la marche. Pour parler de ma propre expérience, mon compagnon et moi, car j'ai parfois un compagnon de marche, nous nous amusons à imaginer que nous sommes des chevaliers d'un nouvel ordre, ou plutôt d'un ordre ancien, non pas composé de chevaliers équestriens, ritters ou riders, mais de marcheurs, classe encore plus ancienne et honorable à mon avis. l'esprit chevaleresque et héroïque qui était jadis l'apanage des cavaliers semble maintenant résider ou peut-être avoir élu domicile chez le marcheur. Le chevalier errant a fait place au marcheur errant. Il est une sorte de quatrième état à côté de l'Église, de l'État et du peuple. Nous avons eu l'impression d'être les seuls par ici à pratiquer cet art noble, encore que, pour dire la vérité, si tant est qu'on puisse accorder foi à ce qu'ils disent, mes concitoyens aimeraient volontiers faire des promenades comme moi, mais ils ne le peuvent pas. Aucune richesse ne peut acheter le loisir, la liberté et l'indépendance nécessaires qui constituent le capital de cette profession. C'est une grâce de Dieu. Il faut un décret venu directement du ciel pour devenir marcheur. On doit être né dans la famille des marcheurs. Certains de mes concitoyens, certes, se rappellent et m'ont décrit des promenades qu'ils ont faites il y a 10 ans au cours desquelles ils avaient eu l'insigne bonheur de se perdre dans les bois pendant une demi-heure. Mais je sais fort bien que depuis, ils se bornent à marcher sur la grande route, peu importe les prétentions qu'ils affichent, d'appartenir à cette classe distinguée. Sans doute, sans aucun doute, ils ont été exaltés l'espace d'un instant par le souvenir d'une existence antérieure où ils étaient eux-mêmes forestiers et hors la loi. Je crois que pour préserver ma santé et ma bonne humeur, il faut passer au moins 4 heures par jour et souvent beaucoup plus à me promener à travers bois, par monts et vaux, absolument libre de toute contingence matérielle. Vous pouvez penser ce que vous voulez, donner un sou ou 1000 livres de mes idées, quand je me souviens parfois que les artisans et les commerçants restent dans leur boutique, non seulement toute la matinée, mais aussi tout l'après-midi, assis, la plupart d'entre eux, les jambes croisées, comme si les jambes étaient faites pour servir à s'asseoir et non pour se tenir debout ou marcher. Je pense qu'ils ont bien du mérite de ne pas s'être suicidés depuis longtemps. Alors, marche pour Motoro, la marche, c'était quelque chose de sérieux. On pourrait dire une sorte de yoga, je pense, une discipline spirituelle. Alors, on va parler un peu de ça. Là, on va au retour de la pause musicale d'un autre livre que j'ai pour vous, le Toro Yogi des Bois, qui parle plus de l'aspect, je dirais, spirituel ou oriental de Toro. Alors, petite pause musicale, puis on revient avec Toro. Alors, c'était la pièce Kamouraska de l'album Flore Laurentienne, volume 2. Bon, alors, je vais vous lire un peu d'un extrait du livre de Taureau, Yogi des Bois, de Colette Poggi, P-O-G-G-I. Très beau livre, en tout cas pour ceux qui s'intéressent à Taureau, que je vous recommande. Et là, je vous lis la deuxième partie, un extrait de la deuxième partie, le yoga de l'unité. On commence par une citation de Montaigne. « Chaque homme porte en lui la forme entière de l'humaine condition. » En mettant nos pas dans ceux de Taureau, nous découvrons le sentiment d'unité qui rayonne dans sa manière de vivre, de se nourrir, de parler aux arbres et aux oiseaux. Une sensibilité particulière innerve sa présence au monde, intègre la nature et l'humain, les faits de société et les mutations de la modernité. C'est dans la simplicité de son rapport au monde que j'aime l'intuition de l'unité. Pour vibrer avec l'univers, il faut en effet se sentir relié de manière immédiate et naturelle à tout ce qui existe. C'est ce qui éprouve notre yogi des bois et ce qui fait de lui un être humain pétri de compassion et d'empathie envers, ouvert sur le monde, solidaire et responsable. Ce sentiment d'unité rejaillit au fil de ses impressions et réflexions rassemblées tout au long de sa vie dans ses divers essais. Walden ou son journal, certains de ses propos rappellent trois siècles plus tôt ceux de Montaigne sur l'unité de l'homme et de l'univers. Dans notre monde dispersé, fragmenté, confus, de trop d'informations, deux thèmes de ce penseur si fécond de la Renaissance peuvent éveiller en nous quelques prises de conscience solitaires. D'une part, l'harmonie cosmique correspondant à la notion antique de l'univers perçu comme une œuvre musicale. D'autre part, le respect envers tous les êtres et la non-supériorité humaine. On lui suit un autre petit extrait de Montaigne. Je me démets volontiers de cette royauté imaginaire qu'on nous donne sur les autres créatures. Il y a un certain respect qui nous attache et un général devoir d'humanité, non aux bêtes seulement, mais aussi aux plantes. Ça aussi, c'est un peu notre thématique aussi cette année, là, l'idée d'identité. Et ça aussi, on va y revenir. On en a parlé un peu déjà là, avec Stéphane Groslot là, sur l'éthique animale. Ça aussi, on va y revenir. On s'identifie comme supérieur aux animaux alors que nous sommes des animaux. Taureau n'aurait pas démenti ce point de vue. La conscience de l'unité globale implique le respect envers le vivant et la réalité universelle. Sans recourir à aucune démonstration théorique, ses écrits nous incitent à reconnaître comme par osmose cette évidence. Captivés par leur musique intérieure, le lecteur part en promenade dans l'espace de sa pensée, prêt à toutes les découvertes. Mais à quoi bon parler d'unité alors que la diversité du monde qui s'affirme devant nos yeux résonne dans nos oreilles et dans nos paroles, semble à première vue la seule vérité. Le langage lié à notre propre, à notre culture oppose toi et moi, sujet et objet, nature et civilisation, individu et univers. Tout simplement, pour mieux respirer, pour mieux aimer et vivre en plénitude, comme le suggère Montaigne. Et si vous avez vécu un jour, vous avez tout vu.
Mm-hmm.
pas difficile d'imaginer une petite cabane perdue au milieu des bois, retentissant de voix distinctes et consonantes à la voix. Celle des rishis, sages de l'Inde ancienne, de Laozi, de Zoroastre, des poètes de l'Antiquité grecque et romaine, ancrés dans l'Amérique du Nord du 19e siècle, qui ne sait encore rien des philosophies indiennes, de l'unité. Notre yogi des bois entretient des affinités électives avec ses auteurs, amis intemporels. Il crée, grâce à cet insolite compagnonnage, les conditions d'une poésie énigmatique du monde, selon l'expression de Montaigne, c'est-à-dire d'une approche créative du réel, perçue non comme un objet en dehors, mais comme participant de la même trame, dans ce dedans qui unifie tout, le dialogue entre les cinq éléments et lui-même prend tout son sens. Alors, c'est terminé pour aujourd'hui. Alors, je vous souhaite une bonne semaine, puis on se revoit la semaine prochaine pour une autre émission.
Écoutez CKIA
88.3
Radio Urbaine.
Et toi, tu cherches du rock de qualité et pas cher? Dirige-toi tout de suite vers l'Entrepôt du rock avec des morceaux de qualité comme... Cette offre est d'une durée limitée.
Juste une heure chaque semaine.
L'Entrepôt du rock avec Yannick Plouf. Une seule adresse pour vous servir. Vendredi 20h sur CKIA 88.3.
CKIA, le journal.
Bonjour, ici Rémi Giguère. Voici votre bulletin du vendredi 31 octobre 2025. Le syndicat de la fonction publique et parapublique du Québec accuse le gouvernement Legault de faire diversion par son projet de loi 3, loi visant à améliorer la transparence, la gouvernance et le processus démocratique des associations en milieu de travail. Selon le président du SFPQ, Christian Daigle, la CAQ cherche à affaiblir le rôle sociopolitique des syndicats tout en masquant les effets des mesures d'austérité qui touchent la fonction publique. Plutôt que de casser du sucre sur les syndicats, tout en créant des législations complices avec le patronat et les grandes corporations, ce gouvernement devrait, selon lui, s'attarder à régler les problèmes inhérents à l'accès aux services de la fonction publique. Au moment où la Commission de la santé et des services sociaux reprend l'analyse du projet de loi 103 visant à réglementer les sites de consommation supervisés, la coalition